Bonsoir à tous. Il faut déclarer l'état d'urgence climatique. Les messages lancés par le patron de l'ONU en ouverture du sommet qui se tient en ce moment sur le climat. Plusieurs dizaines de dirigeants y participent. On y revient avec Sandy Dauphin dans un instant. Au sommaire également, manifestation à Rouen pour sauver les emplois de l'usine Vallourec. Ils sont menacés à cause de la crise sanitaire liée au Covid. Là aussi, conséquence de la pandémie, la colère des professionnels de la culture en France face à une fermeture forcée. Ils lancent un recours. Plusieurs attaques au Nigeria. On retrouvera Lisa Fabian sur place.
France Inter.
Vont-ils passer de la parole à l'action 5 ans après l'accord de Paris sur le climat? Réunion en visioconférence ce soir, un point d'étape important avant la COP26 dans un peu moins d'un an en Écosse. Près de 70 dirigeants du monde y participent. Attention, pas question de parler pour ne rien dire, si je puis dire. Seuls les bons élèves ont le droit à la parole. Ce sont ceux qui prennent de vrais engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. À noter le retour des États-Unis, salué par Emmanuel Macron avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Welcome back, a lancé le président français. Et puis cet appel, Sandy Dauphin, du patron de l'ONU, Antonio Guterres, il appelle le monde à déclarer l'état d'urgence climatique.
Oui, le ton est alarmiste et combatif. 5 ans après l'accord de Paris, la planète n'est pas sur la bonne trajectoire. On s'oriente vers un réchauffement de plus de 3 degrés à la fin du siècle. Il faut réduire de 45% les émissions mondiales de CO2 d'ici 2030. Conformément à l'accord de Paris, les pays ont jusqu'à la fin de cette année, dans quelques jours, pour soumettre officiellement de nouveaux objectifs de court terme plus ambitieux aux Nations Unies. Le secrétaire général Antonio Guterres énonce les priorités.
Il est grand temps de fixer un prix au carbone, d'éliminer progressivement le financement des combustibles fossiles et de mettre un terme aux subventions dont ils bénéficient, d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, de faire peser l'impôt non plus sur le revenu, mais sur le carbone, non plus sur les contribuables, mais sur les pollueurs, de rendre obligatoire la divulgation des risques financiers liés au climat et d'intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les politiques et décisions économiques et budgétaires.
Les plans de relance post-Covid sont une opportunité pour mettre l'économie sur de bons rails, mais pour l'instant le compte n'y est pas, déplore le patron des Nations Unies. Selon une étude récente, les pays du G20 vont investir beaucoup plus de milliards de dollars dans les énergies fossiles, principales responsables du changement climatique, que dans les énergies renouvelables.
Merci Sandy Dauphin. La planète chauffe un peu moins en 2020, mais ça ne va pas durer. Dossier à lire sur notre site internet franceinter.fr. Plus de 107 interpellations ce soir à Paris en marge de la mobilisation contre le projet de loi sécurité globale, jugé liberticide par ses opposants. Des tensions ont éclaté. 3e samedi consécutif de manifestations. D'autres rassemblements en France, notamment à Nice, Toulouse, Auxerre, Besançon ou encore à Lyon et à Dijon, où des tensions ont également éclaté. Une autre manifestation aujourd'hui à Rouen, près de 400 personnes réunies, elles protestent contre la fermeture de l'usine Vallourec de Déville-les-Rouen, qui emploie 190 salariés. Le spécialiste français des tubes sans soudure destinés au marché des hydrocarbures prévoit la suppression de plus d'un millier de postes, dont 350 en France. Le marché des hydrocarbures s'est fortement dégradé depuis le début de la crise sanitaire. Rudy Pupin était dans le cortège pour France Inter.
François a travaillé toute sa vie dans l'entreprise de Déville-les-Rouen. Il en a fait des manifs, il en a vécu des plans sociaux. Mais aujourd'hui, dans le cortège, il réalise vraiment que c'est la fin.
Ça fait drôle. L'usine existe depuis plus de 200 ans et c'est vrai que ça fait bizarre. C'est pas une simple usine, hein. C'est une institution. Vallourec, c'est important. C'est vraiment le final.
L'entreprise doit fermer ses portes le 30 juin prochain, mais les syndicats réclament une reprise rapide du site. Dominique Rueda, délégué CGT.
Le but du mouvement d'aujourd'hui, c'est que justement on trouve une société capable de faire une réelle réindustrialisation et qu'au moins maintenir de l'emploi sur le site de Déville.
Quelques pistes, notamment l'éolien, seraient envisagées. Mais Jérôme, depuis 14 ans chez Vallourec, veut passer à autre chose. La confiance est brisée.
Je souhaite juste un chèque. La reprise, je sais que ça ne se fera pas tout de suite, ça se fera peut-être dans plusieurs années. Et j'ai pas le temps d'attendre. Ça ne changera rien pour nous. On est condamné. Et là, c'est pour faire voir au groupe qu'on est là et que on s'en ira pas sans rien, quoi. Qu'ils fassent un chèque le plus gros possible pour pouvoir continuer à vivre derrière et à retrouver de l'emploi et une sûreté ailleurs, quoi. Le Vallourec, pour moi, c'est terminé.
Comme Jérôme, 190 salariés seront licenciés sur le site de Déville.
Rudy Pupin de France Bleu Normandie pour France Inter. C'est une conséquence de la Covid. Rideau fermé dans les salles de spectacle jusqu'au 7 janvier au moins. Pas d'ouverture au 15 décembre comme l'espéraient les professionnels de la culture. Déception et colère après l'annonce du Premier ministre Jean Castex mercredi. Elle a suscité une très forte émotion. Alors de l'émotion à l'action, plusieurs syndicats d'employeurs et employés du secteur de la culture s'apprêtent à contester la décision du gouvernement. Une procédure d'urgence devant le Conseil d'État est prévue. Recours porté notamment par le comédien Charles Berling. Il dénonce une situation injuste.
Tout d'un coup, c'était l'exception culturelle à l'envers, c'est-à-dire que tout restait ouvert, les grandes surfaces, les supermarchés, les transports, et évidemment les lieux de culte qui ont d'ailleurs déposé eux-mêmes un référé à l'époque, eh bien, restent ouverts. Donc on a le sentiment qu'il y a une iniquité totale, quoi. Donc ça n'est pas possible. Ce stop and go, si vous voulez, ce système de dire on ouvre sans doute le 15 décembre et puis après, ah ben non, finalement on ferme, c'est épouvantable. C'est-à-dire que ça casse les liens avec le public, ça provoque des tsunamis économiques terribles. Bon, donc on pense à juste titre que c'est tout à fait injuste de traiter la culture comme ça.
On jette la culture en pâture, dit aussi Charles Berling. Il répondait à Jules Dequisse. Une région coupée du monde depuis plusieurs semaines, Mekele, la capitale du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Une aide internationale est arrivée sur place pour la première fois depuis l'opération militaire lancée par le gouvernement éthiopien il y a un mois. 7 camions de la Croix-Rouge internationale pour soigner et sauver des blessés. Près de 50 000 habitants du Tigré ont déjà fui au Soudan voisin. Au Nigeria, deux nouvelles violences ont éclaté. Attaque au lendemain de l'annonce de la Cour pénale internationale de l'ouverture d'une enquête sur des violences commises dans le pays par les rebelles djihadistes et les forces de sécurité. Il y en a eu plusieurs ces dernières 24 heures. Lisa Fabian nous appelle de Lagos.
L'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, a revendiqué hier l'enlèvement de deux humanitaires chrétiens, selon leur communiqué. Il s'agit en fait d'une employée du Programme alimentaire mondial qui venait de célébrer son mariage et de son collègue du Comité international de la Croix-Rouge, son témoin lors de la cérémonie. Ils ont été capturés sur un barrage dressé près de Jacana, à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Ce vendredi soir, une école secondaire a également été attaquée, cette fois dans l'État de Katsina, plus à l'ouest du pays. Des hommes armés à moto ont tenté d'entrer dans l'école, selon la police. Des dizaines d'enfants auraient été enlevés lors de cette attaque, selon les informations rapportées par la presse nigériane. Les autorités mettent en cause des bandits, ces bandes armées qui sèment la terreur depuis plusieurs années dans le centre et le nord du Nigeria, pratiquant le pillage et les enlèvements à grande échelle. À Lagos, Lisa Fabian, RFI pour France Inter.
Quelques mots de sport pour finir. Charlie Dalin navigue toujours en tête de course du Vendée Globe, mais c'est conclu. Concurrent se rapproche à grande vitesse. Derrière lui, Thomas Ruyan, puis Yannick Bestaven. À noter des départements, les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers placés en vigilance orange crue et ce, jusqu'à demain dimanche. On regarde la météo justement.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Et c'est avec Jean-Michel Golinski.
Un dimanche, sous la pluie pour le quart nord-ouest du pays, la perturbation accostant en cours de nuit entre les Charentes et la Bretagne va lentement gagner en journée vers le nord de la Seine, plus ou moins freinée par un vent de secteur sud à 70 km par heure. Sur le reste du pays, retourne à temps sec et souvent bien dégagé en journée. Seul le Mistral à 80 km à l'heure va donner une ambiance un peu plus turbulente en basse vallée du Rhône. Au plus bas, les températures vont descendre vers 2 ou 3 degrés en fin de nuit, de l'Alsace-Lorraine au Dauphiné et au nord de la Seine. En journée, les valeurs seront souvent plus élevées que la veille, sauf du Grand Est à Rhône-Alpes, où elles vont stationner au même niveau, c'est-à-dire entre 6 et 9 degrés.